Africa.
Le plus de la grande matinale avec Phil Le Montagnard sur Africa Radio.
Le plus de la grande matinale, premier rendez-vous de la semaine, on va parler football en Afrique quand le rêve de football aboutit à la traite d'êtres humains. Question d'actualité, dans quelques instants, on va s'entretenir avec Franck Demoreau, agent de football, et nous avons également Armand Ossé, ancien international de l'équipe nationale du Gabon, Lazingo national, comme on l'appelait à l'époque. Mais pour l'heure, je vous invite à apprécier DJ Mo Green avec un collectif d'artistes pour la fête du football African Proud, c'est maintenant.
Son père en Irak pour la victoire. C'est l'Afrique qui gagne, marquant l'histoire.
Oh na na na, yes oh na na na, for Africa. Oh yeah yeah yeah, yes oh yeah yeah yeah, we're Africa. Oh na na na, yes oh na na na, for Africa. Oh yeah yeah yeah, oh yeah yeah yeah, sing Africa.
Africa.
Le plus de la grande matinale avec Phil Le Montagnard sur Africa Radio.
Le plus de la grande matinale, on va parler du football africain. Les footballeurs africains évoluent aujourd'hui sur les terrains du monde entier. Ils n'ont jamais été aussi nombreux. Selon une enquête du Centre international d'études du sport, ils représentent 23% de l'ensemble des joueurs de première division en Europe. En Asie, la proportion atteint 27%. Mais derrière ces joueurs de l'élite, combien sont-ils à avoir déjà confié leur économie ou celle de leur village un intermédiaire peu scrupuleux pour un test plus ou moins aléatoire dans un club. Selon l'ONG Foot Solidaire, plus de 6000 mineurs quittent chaque année l'Afrique pour tenter leur chance en Europe. Ce n'est pas toujours facile. Et pour en parler, j'ai donc le plaisir de recevoir Monsieur Franck Demoreau, qui est conseil en pro et des jeunes joueurs de football depuis 12 ans maintenant. Il appartient à la famille Demoreau. Je pense que pour toute la Côte d'Ivoire et du football africain, on connaît bien sûr un certain Cyril Demoreau qui était le capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue.
Merci beaucoup de me recevoir, effectivement sur un thème qui me tient énormément à cœur.
Voilà. Et juste à vos côtés, il y a Armand Ossé, qui est ancien un international du Gabon, hein, qui a évolué dans plusieurs clubs, notamment le Stade d'Akébé, l'USM Milianzami, ça c'était au Gabon, ensuite Grenoble, il a également évolué du côté du S Créteil, du Pau FC, du FC Rouen, du Paris FC, et également, pour ne citer que cela. Bonjour et bienvenue Armand Ossé.
Bonjour Phil, merci encore une fois de me recevoir, cette fois-ci pour vraiment parler d'un domaine qui est le mien et qui me tient beaucoup à cœur, un sujet qui me tient à cœur.
Voilà, c'est un sujet qui nous tient à cœur quand on sait que les championnats viennent plus ou moins de démarrer. Alors Franck, je vais d'abord m'adresser à toi, comment se fait le parcours justement d'un jeune footballeur qui part du continent, comment ça se passe en général, techniquement?
Alors dans la technique, pour un jeune africain, c'est un parcours du combattant. C'est vrai que on part du principe où il y a plusieurs chemins, plusieurs routes, mais la plus probable, celle qui est le plus empruntée, c'est effectivement donc de passer dans un premier temps par des académies ou des clubs en Afrique. Effectivement, on va se retrouver à un moment donné face à plusieurs problématiques. Mmh. C'est que les jeunes, par la suite, vont chercher tout de suite à venir en Europe. Mmh. Voilà. Là où, on va dire, il y a le plus grand
contingent de footballeurs,
ouais. Par rapport au niveau également, par rapport à la visibilité aussi. Mmh. Et au salaire qui va avec. Donc, ils vont quitter un petit peu leur cocon familial avec, on va dire, un certain montant récolté, soit par la famille, soit s'ils sont au village, par le village. Et par la suite, donc, passer par plusieurs pays pour arriver par la suite par ici. Donc, on parle parfois de la Libye, on va parler par... également du Maroc, ils peuvent passer par la Tunisie, par bateau. Hein,
des voies détournées.
Exactement, des voies détournées, par bateau pour certains. C'est un chemin du combattant, vraiment.
Alors c'est un sujet qui n'est pas souvent évoqué, hein, Armand Ossé, hein, cette histoire, ces footballeurs-là, ces jeunes garçons qui se retrouvent dans l'abandon, parfois... à Roissy, Charles de Gaulle, et à finalement cet agent qui est allé voir la famille qui disparaît comme ça dans la nature. Comment expliquer justement ce phénomène?
Mais comme il a dit mon frère Domro, il maîtrise bien cette situation. Hein. Je veux dire, sur le point de vue africain, hein, ce qu'il dit, il est clair. Ça fait une des motivations, hein, de ces footballeurs-là, de ces jeunes footballeurs qui rêvent, qui veulent vivre leur rêve et qui prennent pas le temps qu'il faut pour pouvoir faire les choses dans la norme. Voilà. Alors, il faut dire que il y a beaucoup de paramètres qui amène ces jeunes à être dans l'abandon en Europe. Mmh. Derrière, il y a beaucoup de personnes qui interfèrent, qui initient cela et qui font en sorte que ces jeunes.
Parfois, la naïveté de certaines familles aussi.
Oui, la naïveté, parce que
c'est contribue à cette situation.
La naïveté, justement, ces personnes qui sont dans le football, qui gravitent autour de ce sport qui est très lucratif, ils ont un intérêt qui est le leur, c'est se faire de l'argent le plus vite possible.
Mmh.
Du coup, les jeunes joueurs qui, pour eux, veulent vivre leur rêve,
mmh.
ils sont jeunes, justement, puisqu'ils sont jeunes, ils ont pas la capacité de se projeter non plus et de réfléchir et de savoir tout ce qu'il y a autour qui amène le joueur à devenir un professionnel, comme il le disait mon frère, à suivre un cursus qui est beaucoup plus fiable. Donc voilà, et il y a toute une pratique qui se met en route et qui fait en sorte que ces agents sportifs qui sont véreux usent pour exploiter les familles. Et la conséquence, c'est que c'est pas des agents, parce qu'un agent, hein, mon frère, il est là, il peut me le dire, un agent sportif doit d'abord avoir du réseau.
Ouais.
Voilà, c'est ça qui conditionne son travail d'agent. On ne peut pas être agent sans avoir la possibilité, sans avoir des contacts avec les différents clubs.
Ouais.
Voilà, pour moi, c'est ça. C'est pas forcément les jeunes. C'est beaucoup les intermédiaires qui se disent connaître un domaine qui n'est pas le leur et ils sont là juste pour leur objectif personnel, se remplir les poches.
Alors, Franck de Moreau, peut-on parler d'esclavage moderne de certains footballeurs africains, hein, ces jeunes-là qui se retrouvent parfois à l'abandon, des destins qui sont brisés, hein, pour certains d'entre eux?
C'est exactement ça, encore une fois, je me répète pour la troisième fois. On est face à une problématique à grande échelle, puisque aujourd'hui, on remarque qu'il y a énormément aussi de reportages. On voit certains jeunes qui passent par la Libye. Le dernier reportage que j'ai vu, il était horrible. On voyait un jeune ivoirien, en plus, je suis ivoirien, donc bon, forcément, ça va me toucher, mais c'est toute l'Afrique. Noir surtout. On voyait un jeune ivoirien qui sortait de Libye, qui avait passé pratiquement un peu plus d'un an en Libye, qui avait donc récolté un peu plus de entre 5 et 7 000 euros de par toute sa famille,
mmh.
et qui par la suite s'était retrouvé en Libye, passé par des bateaux, était arrivé sur Paris, voilà, avec énormément de difficultés, des coups de fouet, enfin, une histoire de fou, quoi. On se rend compte aujourd'hui qu'effectivement, il y a énormément de problématiques et qu'il faut préparer avec des gens compétents, des gens qui maîtrisent, des gens qui connaissent. Et derrière, je dirais même, avec aussi peut-être des anciens footballeurs qui pourraient aussi entourer tout ce système, qui pourraient indiquer un petit peu les voies à prendre, les personnes également mal intentionnées. Il faut faire attention parce qu'il y a également toute une partie de personnes qui tournent, qui gravitent autour de ce métier, et qui sont vraiment mal intentionnés, qui pensent uniquement à une chose, c'est l'argent qu'ils peuvent faire si le jeune passe. Si le jeune passe, je dis
ouais.
Si le jeune passe.
Voilà, alors Armand, c'est comment ce trafic qui touche les plus démunis peut-il perdurer? Comment, malgré la dénonciation justement par les instances du football de ce trafic des jeunes footballeurs, peut-il perdurer?
Mais je pense que c'est aussi dû à tout ce qui se passe en Afrique, hein, dans un contexte qui est assez compliqué. Il y a aussi, on dit chacun a sa chance. Et vous voyez très bien que les embarcations qui partent de Libye pour l'Hexagone, on diffuse largement ces images des bateaux qui chavirent, des personnes qui se noient. Mais ça n'empêche pas d'autres à tenter leur chance, parce qu'on dit, il y a ce facteur chance qui est beaucoup plus lié dans la mentalité africaine, où on se dit on va quand même aller voir, on est Saint Thomas, quoi. Je pense que c'est cette situation aussi qui est très contextuelle, qui fait que les familles, ils ont un espoir. Les jeunes footballeurs, ils ont un espoir. Et ils sont Saint Thomas, ils veulent tenter leur chance. Et c'est là encore où, je me répète encore une fois, où c'est ces agents véreux en profitent, parce que ils font payer les familles Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi cet effet de télévision aujourd'hui avec ce qu'est devenu le football aujourd'hui dans ce que ça représente.
Ouais.
En termes de, moi je parle de lucrativement, hein, c'est des millions d'euros dans les journaux. Donc tout le monde rêve, tout le monde veut que son enfant aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant. Parce que nous, dans notre époque, on nous interdisait de jouer au football. Et donc là, les parents ont un espoir. Tout simplement, comme je l'ai dit, c'est contextuel. Ça va être compliqué
stopper, à éradiquer.
Ouais. Mais on va communiquer, on va continuer à faire ce que les gens y font, comme des professionnels, comme mon frère Franck là à côté de moi qui fait un travail. On voit que le travail il est clair. Et pour devenir footballeur professionnel, il y a vraiment un cursus.
Alors je pose la question à tous les deux. Peut-on comparer cet exode avec celui des migrants, parce qu'on a beaucoup parlé de la Libye, du Maroc. Franck, justement, peut-on comparer cela, cet exode de ces jeunes footballeurs africains?
C'est exactement ça. J'en parlais encore avec mes deux sœurs avec qui je partage énormément, Laure, et je leur passe le bonjour justement, Laure et Daniel Domoro. Je leur indiquais qu'effectivement, oui, on va complètement rentrer dans cette logique-là à aujourd'hui. Il y a énormément de footballeurs qui passent par ce biais pour effectivement rentrer en Europe, puisqu'ils n'ont pas la possibilité de passer par le chemin, on va dire, normal. Donc, ce genre de chemin un petit peu intermédiaire ramène, bien entendu, à tout un tas de difficultés qui fait qu'aujourd'hui, on est complètement en phase avec cette problématique, oui, de migrants, mais des migrants qui ont un projet. C'est des migrants à la base qui ont un projet et qui ne sont pas censés terminer soit dans les eaux, soit passer à la base par l'Italie ou par la Libye. Non, mais il faut beaucoup plus, je pense, encadrer. C'est une question de connaissance aussi,
ouais.
Encore une fois, je le répète. Connaissance du milieu, connaissance du parcours avec des gens qui pourraient amener sans doute des formations en plus sur l'Afrique. En France, ici, on est très diplômé, très, voilà, bien formé pour pouvoir, on connaît à peu près le chemin. Il faut passer par un centre de formation à partir de 13, 14, 15 ans. Ensuite, à 17, 18, 19 ans, on passe professionnel si on est bon, voire très bon, jusque 20 ans à peu près. En France, c'est bien géré. Mais c'est vrai qu'en Afrique, ça reste encore une problématique où c'est une question aussi de connaissance. Il faut qu'on soit formé, il faut qu'on puisse détailler, il faut que des anciens joueurs, comme mon frère ici présent ce matin, viennent en Afrique discuter de ce genre de problématique-là.
Et expliquer, sensibiliser les familles, parce que parfois ce sont des familles qui poussent ces jeunes-là.
Exactement.
Ouais.
Faut sensibiliser large, en fait.
Alors, Armand, aussi, les joueurs eux-mêmes ont-ils une part de responsabilité tout de même à se retrouver dans ce type de situation? Parce que c'est vrai qu'on pointe du doigt certains agents véreux ou certaines familles, mais eux-mêmes, en tant que footballeurs, ont-ils une part de responsabilité dans ce qui se passe?
Chacun a toujours une part de responsabilité. Voilà, moi, pour moi, je ne peux pas dédouaner les joueurs, parce que moi, j'ai été joueur. Et moi, je suis arrivé en France en respectant le processus. Ça n'a pas été facile pour moi en Afrique. Ça n'a pas été facile pour moi au Gabon, où j'ai galéré, où j'ai vraiment galéré, j'avais même pas de quoi manger. Et donc, j'aurais pu choisir cette facilité. Il y a eu des possibilités. Il y a eu des amis à moi qui ont pris le bateau, qui se sont retrouvés ici. Ils ont été rapatriés dans un autre pays et puis sont revenus au Gabon. Moi, je leur ai toujours dit, à partir du moment où j'avais confiance en mes qualités, par exemple, j'avais une vision, je me suis dit, je vais me battre sur le terrain et puis je vais avoir ma chance, je vais aller la saisir. Donc, pour moi, chaque joueur, peu importe son âge, a sa part de responsabilité. Il faut une certaine stabilité pour devenir footballeur professionnel. C'est-à-dire stabilité mentale, une façon de penser, une vision. Donc c'est un processus, il faut simplement respecter les étapes.
Les étapes.
Voilà, moi je pense que c'est le conseil que je peux dire. Et je vais aller dans le sens de mon frère Franck tout à l'heure quand il disait qu'il faut informer les gens. Parce que déjà, il faut comprendre le contexte africain avec tout ce que ça comporte, on va dire, à tous les échelons. Et il y a beaucoup de laxisme. Il y a aussi, les gens vont vite, veulent avoir des choses très vite, à tous les niveaux.
Voilà, les gens voient l'argent, mais ils savent pas que pour gagner de l'argent, il faut travailler. D'accord? Et chacun dans son domaine, il faut respecter les étapes. Donc, tout cela, ils sont dans le rêve. Ils rêvent beaucoup, parce que c'est très africain aussi de rêver. Dans un moment donné, il faut être pragmatique, il faut être dans la réalité. En ce qui concerne le sport, ça ne ment pas. Donc, il faut respecter le cheminement, il faut respecter les étapes, et il faut faire en sorte de se donner les chances de réussir.
De réussir.
Voilà, en respectant les étapes. Il n'y a pas la magie, en fait. Donc, après, tout ce que je peux dire, c'est que chaque personne et chaque footballeur qui veut, qui rêve de devenir professionnel, doit respecter ses étapes. Et il n'y a pas la place pour tout le monde.
Exactement.
Voilà.
Voilà. En Afrique, quand le rêve de football aboutit à la traite d'êtres humains, c'est donc notre dossier du jour. Je vous invite aussi à participer, hein, bien évidemment, auditeur de la radio africaine au 01 55 07 58 00, précédé du 33 si vous nous appelez de l'étranger. On va marquer une pause et on revient juste après.
2019, le temps sera donné. Ministre du Djokra.
On dit c'est la Coupe d'Afrique, on n'a qu'à jouer ballon. Mon ami là, dans ballon y'a pas parable.
L'ambiance est bonne, venez danser. L'Afrique sourit bien que ses plaies ne sont pensées. Amène alcool, faut bien y penser. Histoire qu'on les désinfecte pour mieux s'ambiancer. Ça part en pogo, fier de nos locaux. La fête est sucrée comme un plat d'aloco. Chaque guara guara décalé, coupé. Bako sa tombolo, demain tout tombe à l'eau. Gâté c'est gâté, pas de boulot d'office. Prends tes résolutions, moi j'ai mes devises. Paie-moi en euros, francs CFA ou dinar. La coupe à la maison, version zi du ruinard.
Si l'Afrique sourit, ça va aller, ça va aller. C'est la canée, on va aller, faites-nous sourire. L'effet d'un petit bisou, on va s'amuser comme des fous. Et oui, faites-nous sourire, sourire. L'effet d'un petit bisou, on va s'amuser comme des fous. Et oui, faites-nous sourire, sourire, sourire.
On descend ailleurs, africain hostile venu de New York. Normal, on est premier dans le boucan. Rien qu'on se charrie, ton équipe est choucant. À Château d'Eau, c'est la fête. Benoît, faut me coiffer, il parle, il ne regarde plus ma tête. Les stades sont pleins, on est vif, on respecte que la médaille d'or. Ici, l'argent jette. Ton équipe perd, le pari est merdique. Tes espoirs sont morts, enterrés dans Betclic. La loi du sport, tu perds et tu pleures. Mais tu perds ta peur quand ça vient du cœur.
Si l'Afrique sourit, ça va aller, ça va aller. C'est la canée, on va aller, on va aller. Faites-nous sourire, l'effet d'un petit bisou. On va s'amuser comme des fous. Et oui, faites-nous sourire, sourire, sourire. L'effet d'un petit bisou. On va s'amuser comme des fous. Et oui, faites-nous sourire, sourire, sourire.
On s'en fout, hey, yo, yo. S'en fout, hey. Tu nous connais, Jagola m'a chauffé entre le ruinard et la chicha. Tu connais comment ça s'est fini. Ballot, ballot, pied, 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 ballot,
sourire, sans faire le petit bisou. On va s'amuser comme des fous. Et oui, faites-nous sourire, sourire.
Il nous arrive du Cameroun, il s'appelle Sifo Sourire, c'était le titre à l'instant.
Africa.
Le plus de la grande matinale avec Phil Le Montagnard sur Africa Radio.
Le plus de la grande matinale, premier rendez-vous de la semaine, on parle du football en Afrique. Quand le rêve de football aboutit à la traite d'êtres humains, oui, beaucoup de jeunes se retrouvent comme ça en difficulté. On va donner la parole pour commencer à Monsieur Samo. Monsieur Samo, bonjour.
Oui, bonjour Phil.
Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire, nous faire partager hein, par rapport à ce sujet?
En fait, j'aimerais dire, par rapport à ce sujet, tout part d'un même problème. Hein. Tout part d'un même problème, le climat sociopolitique des pays, mm-hmm. des africains surtout. Tout est lié à ça, parce qu'il n'y a pas vraiment un programme pour la jeunesse, un programme de développement pour la jeunesse, et ils ont des problèmes pour se stabiliser au sein même du pays. Donc, étant jeune, tout le monde rêve. D'un lendemain meilleur. Pour ça, quand tu ne trouves pas ça sur place, ben, tu te projettes ailleurs, en fait. Mmh. Il n'y a pas de système d'encadrement proprement dit dans nos pays. Moi, je viens de la Côte d'Ivoire d'Abobo. Principalement, quand je regarde à Abobo, il n'y a même pas de foyer de jeunes. il n'y a pas de programme.
Et pourtant, il existe des académies, hein, il existe des centres de formation pour ces jeunes footballeurs, oui. Mais malgré tout cela, on assiste.
Il y a même pas de suivi, ces centres-là, on peut la compter du bout des doigts. Il y a des enfants qui vont, ils ne mangent même pas à la maison. Ils vont, ils courent sous le soleil, il n'y a pas d'équipement, ça c'est une réalité. Donc quand ils jouent à un certain temps, après ils cherchent à venir en Europe. Mmh. La plupart passent par des petits centres. Ils jouent par rapport, ils se forment, arrivent à un certain temps qu'ils ont 15 ans, 16 ans, ils cherchent à venir en Europe. La plupart de ces jeunes ont passé par des centres, si vous vérifiez bien. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de programme, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Donc c'est pas... en fait, chacun tente sa chance après. Il faut un vrai, comment on appelle, un programme de suivi des jeunes, des programmes pour des jeunes, un programme social, des foyers des jeunes, que ce soit dans le foot, dans l'informatique, je sais pas, dans tous les domaines.
Ouais.
Cela n'existe pas. Les politiques sont basées sur comment faire pour gagner les élections, comment faire pour rester longtemps au pouvoir. Les jeunes sont laissés à eux-mêmes. En Côte d'Ivoire, on a plusieurs phénomènes qui sont liés à ça. Il y a plusieurs phénomènes. C'est ce que j'ai voulu dire.
Voilà, merci beaucoup Monsieur Samou pour votre intervention. Je vais demander justement le point de vue de mes deux invités sur le plateau. Après avoir écouté Monsieur Samou, Franck Demoreau, la Côte d'Ivoire qui reste aussi une grande terre du football africain où il y a de nombreux jeunes, et il y a quand même des académies comme la vôtre qui essayent justement de pouvoir former cette jeunesse ivoirienne. Comment ça se passe au niveau de votre académie justement?
Alors, nous, avec Olivier Capot, l'ancien international français, mais qui vit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a une particularité, c'est que Olivier déjà a joué en pro, plus haut niveau. Il a joué avec Zidane, avec Nedved, avec Trezeguet, donc forcément, il a été formé aussi par Giroud. Donc, il y a, comme je le disais tout à l'heure, encore une fois, une formation avec un plan de développement, un plan structurel. Tout est mis en œuvre pour que le jeune y pense et à l'école et au football. Mmh. Voilà. Il a sa famille derrière lui. Quand il a des problématiques avec la famille, on essaye de... Encore une fois, on est en Afrique, donc il y a cet aspect un petit peu familial qu'on essaye de mettre en place. Par notre biais, tout simplement, par les éducateurs aussi qui aident sur place Olivier. Maintenant, Olivier vit là-bas, donc forcément, il voit tous les jours les jeunes. C'est pas comme s'il vivait ici, en France, et que derrière, il retournait une fois par mois. Non, il vit là-bas, il les suit au jour le jour, au quotidien, il connaît les problématiques. Donc, il y a aussi cet aspect de vouloir vraiment s'investir dans la jeunesse, et de faire ce que d'autres ne font pas. Voilà. Donc là, dans l'académie où on a un peu plus de 100 jeunes, 110 jeunes, de U9 à U23, on est amené donc à gérer tous les aspects. Comme je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'au même...
J'aimerais savoir, ça prend combien de temps en général lorsque vous prenez un jeune footballeur de 9 ans, par exemple?
Alors selon les lois ici en Europe, c'est selon les pays, on est jusqu'à sa majorité.
Ouais.
On a pratiquement 9 ans de travail. C'est ça qu'il faut savoir.
Est-ce que le recrutement peut se faire également sur le plan local? C'est-à-dire que même si certains de ces joueurs rêvent de jouer un jour du côté du Real Madrid, de Barcelone, Paris Saint-Germain ou à l'Olympique de Marseille, est-ce que le recrutement peut se faire dans des clubs locaux également pour pouvoir permettre à ces jeunes-là de s'épanouir d'abord localement avant de partir à l'étranger?
Bien entendu, puisque j'ai propre oncle Cyril, qui est l'ancien capitaine de l'équipe nationale des éléphants de Côte d'Ivoire, qui a aidé à former des joueurs comme Wilfried Bony aujourd'hui, qui joue au plus haut niveau. Seri aussi, qui est passé par Nice, qui est aujourd'hui à Galatasaray. Donc, oui, c'est des joueurs qui jouaient en Côte d'Ivoire, qui sont nés en Côte d'Ivoire et qui ont eu la possibilité, en étant encore une fois structurés, aidés, où on leur a indiqué les choses qu'il fallait mettre en place aussi, parce qu'il y a une part de responsabilité aussi du joueur. Si le joueur, à un moment donné, ne comprend pas qu'il faut faire énormément d'efforts, ce n'est pas des petits efforts, c'est énormément pour pouvoir accéder au plus haut niveau, il a pratiquement deux continents à traverser, l'Afrique et arriver ici en Europe. Donc, c'est complètement différent d'un jeune qui est né ici en France où effectivement tout est pratiquement structuré.
Tout est déjà organisé.
Alors
nous allons repartir au téléphone, on va prendre un autre auditeur. Allô, allô, bonjour.
Allô, bonjour.
Oui, bonjour, c'est monsieur.
C'est Gilles.
Gilles, nous vous écoutons, Gilles.
Oui. Oui, en fait, je vous appelle parce que je suis vraiment content de cette émission-là.
Oui.
Parce que vraiment, on en avait vraiment besoin. Moi, j'ai l'exemple type de mon petit frère qui est en Côte d'Ivoire en ce moment.
Mm-hmm.
Moi, je suis en France. Et qui joue au foot. Il est vraiment très talentueux. Son seul problème, c'est qu'il n'a pas eu de chance. Il a été escroqué une fois par un agent qui l'a emmené dans un pays bizarre, là. Et qu'il a été rapatrié. Et dernièrement, il y a deux ans de cela, il devait signer un contrat avec l'Africa. Mais en match de préparation...
L'Africa Sport, à l'Abidjan.
Oui, voilà. Et en match de préparation, il s'est blessé. Et le problème, comme l'une des seules structures vraiment efficaces en Côte d'Ivoire, c'est la FEC quand il y a une blessure. Ils peuvent... Il y a un suivi derrière.
Ils peuvent prendre en charge.
Voilà, là, l'Africa l'a laissé. Donc, comme il n'avait pas été en match de préparation, il n'avait pas encore vraiment signé le contrat, ils l'ont laissé. Il a dû se débrouiller seul pour se faire opérer. Maintenant, Dieu merci, l'année dernière, j'étais en Côte d'Ivoire. Il avait 7000 euros, il voulait passer par la Libye pour venir en France.
Oh là là.
Et je lui ai fait comprendre que franchement, ce n'est pas une solution. On ne sait pas ce qui peut arriver. Il peut mourir, c'est mon petit frère. Donc, moi, je n'ai pas envie de le voir galérer. Et à l'heure actuelle d'aujourd'hui, certes, il a été guéri, sa cheville, son talon du moins va mieux, mais il ne veut pas signer dans un club parce que il me dit franchement, j'ai pas envie de signer parce que les structures du football en Côte d'Ivoire ne sont pas assez
professionnelles,
assez professionnelles pour qu'il puisse vraiment jouir de son talent en fait. Donc lui, son rêve en fait, c'est vraiment de venir en France. Et se débrouiller du mieux qu'il peut. Donc moi, comme là vous parlez de cette émission là, depuis lui et moi on est en train de réfléchir pour voir comment il va faire, voir demander un visa et ceci parce que je peux vraiment pas qu'il passe par la Libye ou faire un trafic bizarre. Donc si après on peut me donner des conseils vraiment à ce niveau là pour qu'il puisse. C'est un jeune de 18 ans, il va avoir 19 ans. Donc vraiment, si vous pouvez m'aider un peu à ce niveau là, ça ce serait pas mal, quoi.
Alors, vous allez certainement garder l'écoute. On prendra vos coordonnées hors antenne. Donc, on va écouter votre analyse sur la question Armand C, justement.
Oui, c'est très intéressant, Phil. Ce qu'il dit là, il dit beaucoup de choses. On voit très bien qu'il y a beaucoup de l'émotion derrière. Il pense que son petit frère, il est bon, hein, qu'il peut avoir le niveau pour pouvoir évoluer en Occident. Son petit frère, lui aussi, il rêve tout de suite d'y aller. Mmh. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que le football ne ment pas. Le football, moi je parle dans la majorité des cas, parce qu'il y a des cas exceptionnels. Tout à l'heure, je parlais de processus. Le processus, il a 18 ans et il veut partir. Mais je pense qu'à 18 ans, localement déjà, il y a tout un cheminement à passer. Il y a tout un cheminement localement. C'est-à-dire qu'à 18 ans, il devrait se poser la question suivante. Est-ce que je me suis imposé dans les différentes équipes où j'ai évolué? Est-ce que j'ai été repéré?
Il faudrait d'abord faire ses preuves.
Est-ce que j'ai été repéré? Est-ce que je suis international dans ma catégorie? À partir de là, quand on a ces questions-là, on a des éléments un peu plus forts, plus factuels, un peu plus d'éléments de mesure qui peuvent se dire que... Parce qu'en fait, ce qui m'attriste, c'est que ces jeunes-là, ils sont persuadés, comme le disait mon frère Franck,
Franck Demoreau,
en prenant le bateau,
en arrivant ici, ils seront professionnels. Alors, ils oublient que c'est plus compliqué ici, parce qu'on est dans un milieu très concurrentiel, et que localement, il y a des gens qui sont déjà préparés par rapport au contexte.
Et surtout qu'en France, il y a beaucoup de jeunes aussi qui galèrent, hein, qui n'ont pas de possibilité.
C'est ça.
Moi, j'aimerais évoquer rapidement, parce qu'il ne reste que 3 minutes d'émission, sur l'âge, parce qu'il y a aussi ce phénomène dont on parle pas souvent, hein, dans certaines émissions, l'âge des footballeurs, parce que il y a des footballeurs qu'on peut présenter qui arrivent par le canal correct, hein, le cheminement qu'on attend, la bonne direction, peut-être sur le papier il est marqué 17-18 ans, alors que en réalité ce jeune a 23 ans ou 24 ans. Comment justement pouvoir pallier à cela, Franck Demoreau?
Pour pallier à cela, c'est simple, il faut encore une fois rester vrai, donner le vrai âge. Pourquoi? Parce qu'on se rajoute des difficultés, c'est simple. Mmh. En mentant, il ne faut pas s'étonner que derrière, il va y avoir des difficultés. C'est un thème, encore une fois, avec Olivier Capot ou mon oncle Cyril, sur lesquels on discute énormément. Et là-dessus, il faut être réglo.
Est-ce que vous avez été confronté à cela, justement, dans votre académie?
Oui, bien entendu. Après, on mange pas de ce pain-là. Déjà, on est croyant, et puis derrière, on fait pas de ce genre de choses. Il faut arrêter avec ces méthodes-là qui sont arriérées, archaïques. Il faut donner son vrai âge, tout simplement pour pas avoir de difficultés derrière. C'est tout. C'est...
Armand aussi.
Oui, mais parce qu'en fait, si vous voulez, ça revient encore au contexte africain. Une manière de penser, une manière de fonctionner, l'essentiel, c'est qu'on ne se projette pas, en fait. Je résume un peu ce qu'il dit, ils ne se projettent pas. Donc les gens, ils veulent tout de suite, donc ils sont capables de faire tout pour atteindre leur objectif. Ouais. Et après, c'est quelque chose de très important aussi, par rapport au... quand on voit un jeune ici, par rapport à un cursus normal, à 16 ans, 17 ans, 18 ans, sont professionnels maintenant, hein, au bled... Excuse-moi, quand je suis en Afrique, c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas la même formation, on ne reçoit pas la même formation. Pour devenir professionnel, c'est un tout. Il suffit pas simplement de savoir jouer au football. C'est un comportement. Donc il y a une façon de se comporter, de percuter. Et quand on va parler stratégie technico-tactique, il y a un moment donné qui vous.
Ce ne sera plus le football de rue.
Exactement. Non, donc après il faut le percuter. Après, donc généralement le football africain percute aussi un peu.
Voilà.
Parce que voilà. Et du coup, ce qui fait que on passe à la solution la plus simple en se disant on est en maturité à un certain âge.
Après, exactement. Après vous avez des pays aussi qui montrent l'exemple comme le Sénégal avec les académies qu'il y a au Sénégal, Djambar et compagnie.
Djambar.
Vous avez des Sadio Mané. Ça, c'est le top. Et c'est exactement ce qu'il faut travailler sur plusieurs pays.
C'est ce qu'il faut en Afrique, ce qu'il vient de dire. Je vais m'arrêter là-dessus. Ouais. Il faut des exemples, parce qu'il y a des exemples.
Voilà.
Djemba au Sénégal.
Au Sénégal.
Voilà.
Voilà. Merci en tout cas, messieurs, d'être passés ce matin pour démarrer la semaine. On a donc évoqué le football. Quand le rêve de football aboutit à la traite d'êtres humains, c'était donc notre dossier du jour. Une émission que vous pourrez écouter à nouveau sur le site de la radio africaine 3W.africaradio.com. On se retrouve demain, mardi 10 septembre. Ne bougez surtout pas. Dans quelques instants, c'est Ambiance Africa avec Aïssa Thiam.